France Musique.
Carrefour des Amériques.
Deuxième série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
1942, Ernest Hemingway et son ami Gustavo Duran de New York à La Havane. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui dans ce nouveau chapitre de Carrefour des Amériques. Vous qui nous écoutez en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. C'est à New York que je vous propose de nous retrouver. À Manhattan, où nous attendent l'écrivain américain Ernest Hemingway et son ami, le compositeur espagnol Gustavo Duran, dont il avait admiré le courage lors de la guerre civile. C'était même devenu son héros, comme il le disait. Ils avaient tous les deux l'Espagne au cœur. À la fin de la guerre, Gustavo Duran avait pu rejoindre Londres le 5 avril 1939. Totalement épuisé et sujet à des crises de paludisme, il avait été hospitalisé. De plus, il s'était blessé aux mains durant les combats, impossible donc de jouer du piano. En convalescence, il est présenté au couple Elmhurst qui a restauré la propriété de Dartington Hall dans le sud de l'Angleterre, qui accueille de nombreux artistes. Les Elmhurst ont toujours soutenu la République espagnole et ils invitent Gustavo à venir s'y reposer. Au cours d'une conférence qu'il donne là-bas sur la guerre civile, il rencontre une auditrice passionnée par le sujet, Bonnie Crampton, britannique et américaine. Gustavo a 37 ans. Elle en a 25. Il se marie le 4 décembre 1939. Gustavo revit. Il veut même s'enrôler dans l'armée britannique, mais pas question. On le soupçonne d'être communiste. Hemingway lui écrit depuis Cuba où il passe l'hiver. Il est en train d'achever son roman « Pour qui sonne le glas » dans lequel il s'inspire beaucoup de tout ce que lui a raconté Gustavo Duran sur la guerre civile espagnole. Il est même question d'en faire un film. Il aimerait bien en parler à Gustavo, et pourquoi pas à New York. En mai 1940, Gustavo Duran et son épouse fuient les bombardements à Londres et décident de se réfugier aux États-Unis où ils arrivent le 28 mai. À Manhattan, Gustavo retrouve Ernest Hemingway qui rentre de La Havane. Et à Manhattan, peu à peu, la musique revient dans la vie de Gustavo et avec la musique, le souvenir d'amis dont il est séparé. Estrella Estevez soprano et Francisco Hervás au piano, l'histoire du comte Sol parti à la guerre et qui n'est jamais revenu, un romancé espagnol du XVIe siècle mis en musique par le cubain Joaquín Nin, qui a été un grand ami de Gustavo Duran à Paris dans les années 30, Joaquín Nin qui était reparti à La Havane. Juste avant, c'était une invitation à la valse par Nicolas Unwin, toujours de Joaquín Nin. À New York, à la mi-juillet 1940, Hemingway est rentré de Cuba et il est très heureux de revoir Gustavo. Il l'invite à une fête où il retrouve l'ami de toujours, le photographe Robert Capa, qui a dû fuir Paris en guerre. Sur la demande d'Ernest Hemingway, Gustavo relit les épreuves du roman Pour qui sonne le glas. Et il reconnaît dans le personnage de Robert Jordan le professeur d'économie Robert Merriman, responsable en Espagne du bataillon américain Lincoln de la 15e brigade internationale. Il se reconnaît lui-même dans le beau garçon du chapitre 30 devenu une gloire militaire tel que le décrit Hemingway. C'est le célèbre épisode où Robert Jordan doit faire sauter un pont. Il est bien novice et se donne du courage. À présent, tous les ordres avaient été donnés. Ce serait pour le lever du jour. « Aie confiance, Jordan, tu as été à la hauteur. » Pas mal du tout pour un lecteur d'espagnol à l'université du Montana, pas mal du tout. C'est vrai que tu n'as pas d'expérience, mais souviens-toi de Gustavo Duran. Il n'avait jamais reçu aucune instruction militaire. C'était un compositeur, un jeune mondain avant le mouvement. Et regarde, c'est maintenant un remarquable général de brigade. Jordan redescendit le sentier, seul dans la nuit, avec la certitude presque réconfortante que c'était lui qui ferait sauter le pont. Pour Robert Jordan, hélas, la mort est bien au rendez-vous. La musique du film Pour qui sonne le glas, composée par Victor Young, l'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande, dirigé par Richard Kaufman. À New York, Gustavo Duran s'est remis au piano. Il compose et il commence ses recherches sur la musique autochtone américaine à la Bibliothèque publique de Manhattan. En janvier 1941, Hemingway et Martha, son épouse, sont de retour de Cuba et parlent du film à Gustavo. Mais la Paramount le soupçonne de sympathie communiste et refuse de l'engager sur le tournage de Pour qui sonne le glas. Le couple Hemingway part alors rencontrer Gary Cooper en Californie avant un long voyage en Chine et le retour à Cuba en mai 1941. L'histoire d'amour entre Hemingway et Cuba remonte à 1928. Depuis sa résidence de Key West, il faisait régulièrement des allers-retours en bateau jusqu'à la Havane. Avant de partir en Espagne comme reporter de guerre, il avait pris quelques jours de vacances avec son épouse à l'hôtel Ambos Mundos, l'hôtel des deux mondes, à la Havane. En 1939, il était revenu à Cuba, cette fois avec la journaliste Martha Gellhorn, sa nouvelle épouse. Martha avait découvert peu auparavant une maison isolée de la fin du 19e siècle à la sortie de la Havane. Il la visite, il l'achète, c'est la Finca Viria, la Vigie. En 1941, Hemingway y habite et entre deux parties de pêche, il aime retrouver dans la vieille Havane ses bars favoris, la Bodeguita del Medio et le fameux Floridita, avec en musique de fond les boléros à la mode que transmettaient les radios.
Mayita, mi Mayita, Mayita ven a mí. Te quiero, mi muchachita, mi vida es para ti. Dime si en tus lindos ojos nunca, nunca he de mirar. Yo quiero, linda muñequita, en esta boquita un besito más. Mayita, mi Mayita, Mayita, ven a mí. Te quiero, mi muchachita, y solo pienso en ti. Eres el sueño dorado de mi corazón. Eres mi adoración. Deja que siga mi eterna locura por ti. Mayita, dime que sí. Mayita, mi Mayita, Mayita, ven a mí. Te quiero, mi muchachita, y solo pienso en ti. Eres el sueño dorado de mi corazón.
Une chanson du portoricain Rafael Hernández, Mayita, par un des ténors favoris des Cubains, René Cabel, le chanteur de boléro qui était sûrement un des plus présents sur toutes les radios cubaines pendant les années 40. Autre événement à New York en 1941, c'est Luis Buñuel qui vient de s'exiler aux États-Unis et qui est nommé par Nelson Rockefeller, directeur des films documentaires au Musée d'Art Moderne. Il est chargé de réaliser des films anti-hitlériens à destination de l'Amérique latine et de Cuba en particulier. Buñuel forme alors une équipe avec deux compositeurs espagnols exilés comme lui, Gustavo Pitaluga et Gustavo Duran. Duran venait de réaliser quelques conférences sur le folklore latino-américain sur la chaîne de radio WNYC Et le 24 mai 1941, il écrit la préface d'un livre où sont publiés des chants et danses d'Argentine collectés par l'Américain Evans Clarke. Une préface passionnante, comme cette réflexion sur la musique du gaucho d'Argentine. Le gaucho a une attitude réaliste et objective face à la vie. Quand il chante beaucoup, mais il sait que ce qu'il a à dire doit être rapide et sans détour. La structure des danses d'Argentine, comme le gato ou la chacarera, est aussi définie qu'une sonate de Mozart ou de Scarlatti. Et on écoute un gato chanté par Anna Schneider de Cabrera et Adriana Alba, deux femmes que le gouvernement argentin avait envoyées en Europe avant la guerre pour faire découvrir les chants et danses populaires d'Argentine. En 1941, Nelson Rockefeller propose à Luis Buñuel de nommer Gustavo Duran directeur musical du département cinématographique au Musée d'Art Moderne. Gustavo Duran et Gustavo Pitaluga ont ainsi restauré et recensé près de 2000 documentaires. Nelson Rockefeller est toujours directeur du Musée d'Art Moderne, mais il est aussi directeur de l'Office de coordination des affaires américaines, où il supervise les relations des États-Unis avec le reste du continent. C'est ce qu'on appelait en espagnol la Unión Panamericana, une institution où il demande à Gustavo de superviser tout ce qui concerne la musique. En novembre de la même année, la famille Duran déménage à Washington. Gustavo Duran poursuit alors ses recherches sur la musique populaire américaine et il part en voyage au Texas où la musique populaire est si riche et où l'apport de la population mexicaine est essentiel. Nul doute qu'il a alors entendu la chanteuse américano-mexicaine Lydia Mendoza, dont les premiers enregistrements étaient sortis à San Antonio du Texas en 1938 et ils avaient eu un grand retentissement. Première chanteuse texane à enregistrer en espagnol. Nunca, jamais. Je sais que je n'embrasserai jamais tes lèvres, mais peu importe, je t'aime et je te vénère.
Yo sé que nunca besaré tu boca.
plus les années passent, plus l'Espagne est au fond de l'âme de Gustavo. Même en voyage, il lit sans arrêt la presse. Et chaque année, il relit intégralement le Don Quichotte. Durant son voyage dans le sud des États-Unis, Gustavo Duran commence à écrire son livre sur le folklore texan. Et un jour, au beau milieu du Texas, il entend une chanson qui lui semble bien familière, intitulée « Red River Valley », la vallée de la rivière rouge, l'une des plus anciennes ballades américaines qui, à son grand étonnement, lui arrache des larmes.
From this valley they say you are going. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that has brightened our pathways a while. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. But remember the Red River Valley and the boy that has loved you so true. Waiting for those sweet words you never would say. But now everybody has told me that you are going away. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. But remember the Red River Valley and the boy that has loved you so true.
Comment Gustavo pouvait-il imaginer qu'au fin fond du Texas, il allait être bouleversé par cette vieille ballade américaine? Et pourquoi, en un instant, tous les souvenirs si poignants de la guerre civile lui revenaient en mémoire? C'était en réalité la chanson du bataillon américain de la 15e Brigade internationale, la brigade Lincoln que commandait Robert Merriman lors de la bataille du Jarama durant la guerre civile espagnole. Jarama Valley. Il y a une vallée en Espagne appelée la vallée du Jarama. C'est un endroit que nous connaissons bien. C'est là que nous avons combattu les fascistes et cette vallée est devenue un enfer. There is a valley in Spain called Jarama.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell. Battalion and the fight for Madrid that it made. There we fought like true sons of the people as part of the 15th Brigade. Memory we ne'er will forget. So before we conclude this reunion, let us stand to our glorious bed. Thank you. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell.
Peter Seeger dans la ballade américaine Red River Valley, dont le thème était celui de la ballade du Jarama des Brigades Internationales en Espagne, interprétée ici par Tom Glaser. Le 7 décembre 1941, après l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés. L'été suivant, Gustavo Duran est invité au Middlebury College dans le Vermont, en compagnie de poètes espagnols exilés, dont Francisco García Lorca et Fernando Montesinos, respectivement le frère et le neveu de Federico García Lorca. Gustavo leur chante de vieilles chansons espagnoles, comme le faisait Lorca en s'accompagnant au piano. Quant à Hemingway, il est à Cuba, où affluent de nombreux réfugiés espagnols. Et il est convaincu qu'il faut surveiller de près les quelques 3000 phalangistes et franquistes qui vivent à Cuba. Ils forment une association puissante en relation avec les nazis. Il s'agit de les débusquer et de les combattre. Hemingway met en place un réseau d'espionnage. Il charge des Espagnols républicains d'infiltrer les cercles phalangistes. Il appelle ce réseau « The Crooks Factory », la fabrique de malfaiteurs. Hemingway en informe le nouvel ambassadeur américain, Braden. Ce dernier avait passé la plus grande partie de sa vie en Amérique latine, qu'il connaissait très bien. Hemingway lui propose de mettre son yacht « Pilar » à disposition des États-Unis pour détecter la présence d'éventuels sous-marins allemands dans la mer Caraïbe, comme ceux qui avaient coulé deux bateaux cubains en mars 1942. Hemingway lui parle de Gustavo Duran, de son travail avec Rockefeller, et lui demande de le faire venir à Cuba pour l'aider dans ses opérations. Braden invite officiellement Duran, qui devient citoyen américain, et qui prend l'avion le 12 novembre pour La Havane.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Un thème célèbre d'Ernesto Lecuona interprété par lui-même au piano, Siempre en mi corazón, qui est l'un des thèmes musicaux du film Always in My Heart, produit par la Warner Bros. Une chanson que l'on fredonne de Cuba jusqu'aux États-Unis. D'ailleurs, Lecuona a même été nominé pour cette chanson pour les Oscars. Nul doute que Gustavo Duran connaît cette musique quand il débarque à La Havane le 12 novembre 1942. Hemingway l'accueille à l'aéroport, il le présente à l'ambassadeur Braden avant de l'emmener à la Finca Vigía où il le loge dans le bungalow des invités à côté de l'habitation principale. Et c'est à la Finca Vigía que Gustavo fête ses 36 ans deux jours après. Hemingway le présente alors aux membres de son réseau en tant que trésorier et intermédiaire avec l'ambassade américaine. Les jours passent, Hemingway continue à chasser les sous-marins allemands sans guère de succès. Duran l'informe que selon ses recherches, les phalangistes de La Havane, franchement, ne représentent pas un réel danger. Hemingway ne veut pas le croire et il se désintéresse peu à peu de Gustavo Duran. Par contre, l'ambassadeur Braden le rencontre souvent. Il a vite compris l'homme d'envergure qu'était Gustavo. Son engagement exemplaire dans les rangs des républicains espagnols contre Franco et Hitler. Il propose à Gustavo de faire venir son épouse. Elle arrive le 12 décembre, Hemingway les accueille froidement à la vigie, il est de plus en plus paranoïaque, il se fâche violemment avec Martha le soir de Noël à l'ambassade. Bonti et Gustavo quittent alors la Finca Vigía et après un moment à l'hôtel, Bonti fait venir leur fille et tous les trois s'installent dans une maison du nouveau quartier de Miramar. Braden a fait de Gustavo son attaché culturel à l'ambassade et son conseiller personnel. Gustavo se sent détaché de tout lien avec Hemingway. Il part à la recherche de ses anciens amis à La Havane et il peut enfin flâner en toute liberté dans les rues, sur les places et comme tous les Cubains, contempler enfin le coucher de soleil sur le Malecón, le front de mer de La Havane. Gustavo se sent chez lui et il aime le coucher de soleil tropical, surtout quand la couleur devient le soir violette. Cuando la tarde se viste de color violeta.
Los ojos del sol se han cerrado y con ellos se ha ido la luz. De violeta se viste la tarde, porque pronto la noche vendrá. ¿Qué me importa que venga la noche con su negra mantilla de tú? Si en el fondo de mi alma tú eres una aurora radiante de amor. La lluvia caiga despiadadamente. ¿Qué me importa que el mar en la noche no quiera cantar? ¿Qué me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna? Si yo tengo en tus ojos el cielo, la luna y el mar, ¿qué me importa que en la vida todo tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? Si mi alma será toda tuya por toda la vida, ¿qué me importa que todo se acabe si me quedas?
Elisabeth Del Rio, encore une grande voix des boléros cubains. À La Havane, Gustavo Duran part évidemment à la recherche du compositeur Joaquín Nin, dont il avait été si proche à Paris dans les années 30. Nin a donné un récital en 1941, et puis il assiste toujours aux concerts où sont interprétées ses œuvres. Cette même année 1941, Gustavo lie une belle amitié avec Julián Orbón, un jeune pianiste qui a donné son premier récital à l'Académie des Beaux-Arts. Il restera toute sa vie un de ses plus chers amis. En 1943, Julián Orbón a 18 ans, il compose sa première œuvre, une toccata pour piano inspirée par l'Espagne. Julián était né en 1925 dans les Asturies lors d'une tournée que faisait son père, le pianiste Benjamín Orbón, qui résidait alors entre Oviedo et La Havane, où il avait fondé un conservatoire prestigieux. En 1934, Julián Orbón est encore en Espagne lorsque se déroule dans les Asturies la révolte des mineurs qui est réprimée dans le sang. Il est témoin du saccage de l'immeuble du journal que dirige son oncle et de l'incendie de sa bibliothèque. La famille Orbón décide de rentrer définitivement à Cuba en 1939. Julián a alors 14 ans et il étudie le piano avec son père, dont il dirige le conservatoire après sa mort en 1943. L'année où il compose cette toccata pour piano, enregistrée sur le vif.
Thank you.
Cet enregistrement est le seul que nous possédions de la toccata de Julian Orban. Il a été enregistré sur le vif lors d'un concert de la pianiste cubaine Noema Fernandez. À La Havane, Gustavo Duran retrouve aussi le poète cubain José María Chacón y Calvo, très proche comme lui, en Espagne, de Federico García Lorca. Il est à cette époque le directeur général de la culture au ministère cubain de l'éducation. Gustavo revoit aussi l'écrivain communiste Juan Marinello qu'il avait bien connu lors du congrès des écrivains antifascistes à Madrid. Marinello qui est devenu ministre de Batista en 1943. Il retrouve aussi l'écrivain Alejo Carpentier qu'il avait connu à Madrid lors du même congrès. Carpentier réside au Venezuela et est de passage à Cuba. Il fait découvrir à Gustavo la santería, les rites syncrétiques afro-cubains et des spectacles de musique cubaine. En avril 1947, au Venezuela, Carpentier, persuadé que Gustavo est communiste, s'inspire de lui pour le personnage d'Enrique dans son roman « Le Sacre du printemps ». À La Havane, Gustavo aime aussi la musique populaire et il connaît bien le grand succès de Margarita Lecuona, une cousine éloignée d'Ernesto Lecuona, la chanson afro-cubaine « Babalu Aye ». Babalu Aye, c'est le dieu qui guérit toutes sortes de maladies et dont le double catholique est Saint Lazare. On l'entend partout sur les radios, interprété par Miguelito Valdés et son orchestre Casino de la Playa. En 1944, alors que la Deuxième Guerre mondiale va s'achever, l'ambassadeur Braden est nommé ambassadeur en Argentine. Gustavo Duran l'accompagne afin de surveiller de près les relations du général Perón avec les nazis qui résident en Argentine. Avant de quitter Cuba, Gustavo revoit Hemingway, qui est décidément toujours aussi désagréable. Ce sera la dernière fois. Après l'Argentine, il est nommé à New York à un poste de direction au sein de l'ONU. À New York, il voit souvent le frère de Lorca. Gustavo Duran sera victime du macartisme en 1954. 11 ans après, l'ONU le dépêche en Grèce, où il meurt en 1969. Il repose dans un petit village de Crète qu'il avait connu peu auparavant et où les habitants l'avaient adopté comme un fils du pays. Eh bien, on va écouter une des plus belles coplas espagnoles, « Les yeux verts », inspirée au chanteur andalou Miguel de Molina par un vers célèbre de Lorca, « Verde que te quiero verde ». Vert, je veux te voir en vert. Miguel de Molina exilé en Argentine et qui découvre la Havane juste avant le départ de Gustavo. J'ai arrêté mon cheval à ta porte et tes yeux ont été pour moi deux étoiles vertes. Vertes comme le basilic, vertes comme le blé en herbe et comme le citron vert.
Apoya en el quicio de la Sevilla. Mira, vas a abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto apuntar el día y anunciar el alba en la torre en la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Me dijiste, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subí en el caballo y un beso te di y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón.
Bouleversant Miguel de Molina. Gustavo Duran arrive le 22 mai 1945 à Buenos Aires. En Argentine, il revoit le poète espagnol Rafael Alberti, qui lui avait dédié un poème durant la guerre. Il rend visite aussi à Manuel de Falla, exilé à Alta Gracia, dans les montagnes, près de Córdoba, quelques mois avant sa mort, le 14 novembre 1946. À Buenos Aires, il a lié une profonde amitié avec Victoria Ocampo, ce qui rend très jaloux d'ailleurs Roger Caillois à Paris. Pendant ce temps à La Havane, l'ami de Paris, le compositeur Joaquin Nin, vit toujours entouré d'amitié et de reconnaissance. Il a rencontré Alicia Alonso, qui vient de rentrer des États-Unis. Le 25 juin 1942, au Théâtre Auditorium, elle fait un nouveau triomphe lors d'une représentation des Sylphides, une représentation de bienfaisance pour le Fonds cubano-américain de secours aux alliés en lutte contre le nazisme. Et en octobre, elle décide de réaliser sa toute première chorégraphie lors du spectacle du ballet où elle danse sur la musique de Stravinsky, de Debussy et de Ravel. Et elle choisit la musique de Joaquin Nin pour son ballet La Condesita, la petite comtesse. Pour le compositeur, c'est un grand moment de bonheur alors qu'il se sait à nouveau dans une situation très précaire car il va devoir quitter la maison du cousin qu'il a accueilli à Cuba. La violoniste belge Lola Bobesco et Mariana Capdebo, dans ce commentaire sur un thème de Raphaël Anglès de Joaquin Nin. Eh bien, c'est sur cette musique de Joaquin Nin qu'on va se quitter aujourd'hui jusqu'au prochain Carrefour des Amériques. Une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Pierre Monteil. Une émission que l'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.